Midi Info avec Alec Castonguay.
Bonjour. Dans quelques instants, on va recevoir Louis Rousseau, professeur émérite au département de sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal. Est-ce que les Québécois seraient plus solidaires qu'ailleurs sur le continent en raison du vieux fonds catholique de la province? Le premier ministre François Legault semble le penser. C'est ce qu'il a fait comme lien hier sur la plateforme Twitter. Est-ce que c'est fondé? Est-ce qu'il y a un lien entre religion, religion catholique et solidarité? Et d'abord, ben, sommes-nous vraiment plus solidaires qu'ailleurs sur le continent? Parce que oui, on a des programmes sociaux plus généreux et on voit, sondage après sondage, que les Québécois tiennent à ces programmes sociaux plus généreux. Mais en même temps, on est systématiquement à l'endroit où les dons de charité sont les plus faibles au Canada. Toute province, tout territoire confondu. Et ça, ça dure depuis 2006. La valeur médiane du don de charité au Canada, c'est 340 $. Au Québec, c'est à peine 130 $. Donc, clairement, sur les dons de charité, là, on ne peut pas dire qu'on se distingue du reste du continent. Alors, ça dépend donc des indicateurs qu'on choisit pour dire qu'on est plus solidaire ici qu'ailleurs sur le continent. Bref, débat très intéressant qu'on va commencer avec Louis Rousseau sur l'aspect plus historique, lien entre solidarité et religion. Et on va poursuivre tout ça avec Hélène Buzetti et Pierre Duchesne lors du Grand Angle. Mais pour tout de suite, on va parler des fuites. Les fuites de renseignements militaires au Pentagone, à Washington, c'est la stratégie militaire de l'OTAN qui est en cause entre donc l'Ukraine d'un côté, la Russie de l'autre, des documents hautement confidentiels qui circulent en réalité depuis des semaines sur différentes plateformes, notamment des groupes de discussion sur la plateforme Discord qui est très populaire auprès des joueurs en ligne. On est assez loin de WikiLeaks, le souvenez-vous, il y a quelques années. On n'a pas encore identifié la source de ces documents-là du côté du Pentagone, ni leur authenticité, malgré qu'on confirme du côté de Washington que c'est des fuites graves qui peuvent porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis. Donc, à quel point la disponibilité de ces documents, qui est maintenant dans le domaine public, est maintenant aussi entre les mains des Russes, il faut le dire, met à mal la stratégie de l'OTAN dans sa lutte contre l'invasion russe en Ukraine. Pour faire le point, je joins Frédéric Lemieux, professeur et directeur du programme de renseignement à l'Université Georgetown à Washington. Monsieur Lemieux, bonjour.
Bonjour.
Peut-être commencer par la base, là, à qui sont destinés ces documents-là qui ont été rendus publics? Quelle est leur importance?
En fait, les documents sont assez divers. Il y a des analyses, il y a des évaluations de situation, il y a même aussi des informations qui sont liées, si vous voulez, à l'approvisionnement de munitions et d'armement, par exemple, à l'Ukraine. Il y a même des informations reliées sur des opérations de renseignement ou des opérations d'espionnage sur des pays alliés. Donc, c'est assez diversifié. Je vous dirais que le point central ou l'élément central de ces informations-là sont en lien avec la guerre en Ukraine. Ils sont liés, par exemple, à des sujets qui sont attachés au conflit en Ukraine. Par exemple, notamment lorsqu'on parle de d'opérations de renseignement qui ont été écoulées en lien avec la Corée du Sud ou avec l'Égypte, c'est lié, par exemple, à l'approvisionnement en armement, soit ukrainien, soit russe.
Il y a certains médias américains qui disent que les documents pourraient avoir été mis en ligne dès janvier, quoique on n'a pas la confirmation de cette information-là. Mais on sait qu'au moins depuis mars, donc depuis quelques semaines, ils étaient disponibles sur différentes plateformes, parfois un peu inusitées, là, comme je le disais, la plateforme Discord, qui est surtout connue pour mettre des liens des joueurs en ligne ensemble, en lien les uns avec les autres. Est-ce que on a fait fuiter ces documents-là par des sources un peu inhabituelles, ce qui a pris le gouvernement américain par surprise?
Oui, je voudrais oui puis non. J'aimerais peut-être amener vos auditeurs à quelques, je dirais, données de base concernant les fuites. Premièrement, il faut savoir, je ne sais pas si vos auditeurs pour même vous rappeler, mais il y a quelques semaines de ça, le Pentagone avait annoncé que des milliers de emails, des emails internes avaient été sauvegardés sur des serveurs non sécurisés. Et puis, ça avait généré tout un brouhaha, toute une sorte de si vous voulez, d'alerte. Donc, on voit ici que le Pentagone, dans un passé quand même assez rapproché, a fait quand même des boulettes avec la manière dont ils sauvegardent et qu'ils vont faire le storage de leurs informations classifiées ou de leurs informations internes. Donc, il y a peut-être l'hypothèse ici, là, dans ce cas, quand vous parlez de fuite, là, que ça soit peut-être l'origine, pourrait être une erreur de classification, une erreur de storage. Donc, il y a cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est que ça a été volontairement coulé. Donc, ça peut être fait par quelqu'un à l'interne, quelqu'un qui connaît bien, qui a accès au système pluriel, et puis qui veut faire du dommage, par exemple à l'Alliance et aussi à la campagne en Ukraine. Il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est que ça a été une opération qui a été guidée par Moscou à travers un système quand même de subterfuge et de hacking qui a permis d'exfiltrer, si vous voulez, ces informations-là, de les analyser d'abord et ensuite, sur différentes plateformes, embarrasser les Américains en coulant l'information. Donc, ces trois scénarios-là sont encore extrêmement possibles. Je veux dire, les autorités américaines n'ont pas encore déterminé là, la source ou la motivation derrière le coulage de cette information-là.
Quel risque constituent ces fuites pour les États-Unis, les alliés, je pense au Canada, bien sûr, mais il y a de nombreux alliés de l'Ukraine. Est-ce que c'est vraiment dommageable?
Ben, je vous dirais que oui, en fait, sur le plan stratégique, les dommages vont venir du fait que dans certaines de ces évaluations-là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a accès un peu à comment les Américains pensent et entrevoient, par exemple, le futur du conflit ou à tout de moins le futur de certaines campagnes. On parle de la campagne de contre-offensive de l'Ukraine au printemps. On voit, par exemple, qu'il y a des évaluations qui disent, bon, on n'attend pas beaucoup de cette campagne-là. On pense que l'Ukraine va probablement faire juste des gains territoriaux assez maigres. Donc, déjà là, c'est embarrassant parce que ça vient probablement alimenter les tenants du plan de paix. Par exemple, les gens qui vont dire, bon, mais vous voyez, il y a très peu de chances que l'Ukraine soit victorieuse, donc il faudrait peut-être penser à aller du côté de la paix au lieu du combat. Donc, ça vient alimenter, si vous voulez, je vous dirais, des agendas, si vous voulez, géopolitiques sur ce plan-là. Sur l'autre plan, c'est que c'est embarrassant, non seulement pour les Américains, mais pour les alliés qui voient qu'ils se font espionner. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la Corée du Sud qui a réagi, par exemple, au fait que les services de renseignement américains les espionnaient. Je suis sûr que les Sud-Coréens le font aussi, mais dans ce cas-ci, c'est les Américains qui se sont fait prendre. Donc, c'est aussi, ça va froisser, par exemple, les différentes ententes, les différents, je vous dirais, engagements diplomatiques entre les pays. Donc, il va probablement avoir quelque chose comme du damage control à faire là-dessus. Là.
Vous disiez tout à l'heure que le troisième scénario possible de l'origine de ces fuites-là, ce soit que ça a été téléguidé par Moscou. Il y a des informations qui sont quand même pas particulièrement reluisantes sur la Russie dans ces documents-là. Le nombre de soldats russes morts, le matériel militaire russe qui serait pas du tout au point, par exemple. Est-ce qu'il y a une valeur pour les Russes à ce qui a été rendu public dans le cadre du conflit en Ukraine?
Ben, en fait, on peut toujours se rattacher au côté là, écran et miroir. Dans ce cas-ci, je veux dire, les Russes peuvent réclamer tout ce qui est embarrassant pour les Américains, tout ce qui est embarrassant pour l'Ukraine, puis dire que le reste, c'est une fabulation de l'imagination ou je sais pas trop quoi. Et de l'autre côté, le renseignement américain peut dire, bon, mais ce que les Russes disent de ce qu'on pense des autres, c'est pas vrai, ça a été planté, ils appellent ça « doctored », ça a été modifié. Donc ça, bienvenue dans le monde du renseignement, puis dans le vrai est faux et le faux est vrai. Donc c'est un peu ce que les agences en ce moment essaient de faire, c'est un peu ce qu'on appelle le contrôle des dommages. Mais je vous dirais que dans ce cas-ci, même si c'est des informations peu flatteuses à l'égard des Russes et de la performance de l'armée russe sur le terrain, pour l'instant, le score il est en faveur de ceux qui se battent contre l'Ukraine. Ça c'est clair.
Est-ce que, en terminant, il y a un danger pour les espions américains, parce qu'il y a clairement là un accès à des proches de Poutine, du Kremlin ou du ministère de la Défense russe. Là, on voit qu'il y a des Américains qui ont eu accès à des informations. Est-ce que ça met leurs agents en Russie en danger?
Ça Ça peut être le cas. Les sources américaines en Russie peuvent certainement être, disons, en danger d'être démasquées. Moi, je vous dirais que depuis le début, juste pour vous donner une idée à quel point c'est quand même une question épineuse, sensible, et que les Américains sont assez farouches au niveau de l'utilisation de sources qui sont trop proches. Vous savez que le plan d'attaque sur l'Ukraine, c'est quelque chose que les Américains avaient obtenu presque 6 mois à l'avance. Hein. On parle du mois d'août 2021 pour l'attaque en février 2022. Donc, il y avait déjà une connaissance de par les Russes d'une pénétration quand même assez importante des cercles d'initiés à Moscou et au Kremlin. Je pense qu'ils ont pris quand même pas mal de mesures là-dessus. Là où je négligerais pas d'autres apports du renseignement, c'est surtout l'interception de signaux en termes de signaux de communication pour générer du renseignement. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que les Américains ont été capables quand même d'exploiter énormément, pas juste en Russie, mais aussi lors de, je vous dirais, des contacts russes ailleurs, par exemple en Égypte ou dans d'autres nations.
Frédéric Lemieux, professeur et directeur du programme de renseignement à l'Université de Georgetown à Washington. Merci de nous avoir éclairés.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Midi Info sur ICI Radio-Canada Première.
Alors, on revient sur cette polémique déclenchée par François Legault hier dans un gazouillis où il disait que la solidarité au Québec aurait des fondements catholiques. C'est une polémique quand même d'autant plus vive que quelques jours plus tôt, souvenez-vous, Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, avait fermé la porte à l'ouverture de salles de prière dans les écoles en brandissant justement la laïcité de l'État. Alors, on a voulu savoir si cet esprit de solidarité qui anime souvent les Québécois, ça c'est vrai, trouve réellement ses racines dans l'histoire religieuse du Québec. Avec nous pour en parler, Louis Rousseau, professeur émérite au département de sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal. Il est avec moi en studio. Monsieur Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans son petit tweet, son gazouille, Monsieur Legault écrit, et je le cite, « Le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l'échelle continentale. » Fin de la citation. Est-ce qu'il a raison?
La réponse à ça est un peu nuancée. Parce que, d'une part, on peut dire oui, toutes les religions, parce que c'est à peu près la chose sur laquelle beaucoup de gens s'entendent aujourd'hui. La religion, c'est religarer, c'est faire des liens entre les gens et avec le monde surnaturel. Donc, ça, c'est une espèce d'idée très générale. Je pense pas que c'est à ça qu'il évoquait. Et à ce niveau-là, c'est clair que toute appartenance religieuse, à quelque époque que ce soit, rassemble intensément les gens qui se disent membres de telle ou telle église ou de telle tradition religieuse. Mais y a-t-il quelque chose de spécifique? Parce que c'est
ce vraiment... qu'il dit, c'est que ça nous distingue à l'échelle continentale.
Je dirais deux choses. Oui, parce que nous avons connu, je dirais, un siècle où la religion catholique a été extrêmement importante. Et très définissant fortement notre identité. C'est en gros des années 1830 à l'après-Deuxième Guerre mondiale. Pour cette période-là, les institutions catholiques, la ferveur catholique des gens, parce que les institutions, c'est une chose, et la ferveur, parce qu'ils peuvent être là, les institutions. Présentement, les institutions sont encore là, les gens ne sont pas là.
C'est ça.
Donc, il faut vraiment tenir les deux choses. Mmh. Alors, ce qui se produit... à la fin des années 1830, c'est l'échec du mouvement patriote. Hein? On se fait battre sérieusement. Le mouvement patriote était un mouvement national, c'est-à-dire que c'était un mouvement lié à l'identité. Cette identité-là était-elle fortement catholique? Réponse, certainement, elle n'était pas protestante, mais elle était catholique d'une manière un peu traditionnelle. C'est-à-dire que les gens sont pas athées. L'athéisme est un phénomène
marginal
qui existe certainement, extrêmement marginal. Les gens sont pas très catholiques, si on veut, parce qu'on constate 60% de la population fait pas ses Pâques à Montréal dans les années 1830.
Okay.
Pas faire ses Pâques, ils le savent. S'ils meurent, et on peut mourir plus vite à l'époque qu'aujourd'hui, s'ils meurent, c'est directement l'enfer. Ils vont à la messe, ils font pas leur Pâques. Ça veut dire que dans leur comportement moraux, là, ils ont des affaires à se reprocher, puis ils n'ont pas envie d'aller se confesser. Donc, ils se retiennent. Et ce qu'on constate, à partir de 1840, la courbe des Pâques monte à une vitesse astronomique, et c'est à partir de ce moment-là. L'autre dimension aussi, c'est qu'on manque de prêtres en 1820-1830. Les vocations sacerdotales vont monter. Et c'est pas parce que c'est plus payant. C'est aussi payant avant, et c'est très payant, de devenir membre du clergé séculier. On manque de religieux, de religieuses. C'est pas du tout... les gens ne cherchent pas à avoir une fille qui va devenir une sœur. Ça va devenir une habitude qui va être le résultat d'un réveil religieux. Alors, ce qu'on connaît, ce qu'on expérimente, c'est un réveil religieux après l'échec de 37-38. On lance...
Où là, dans le fond, la nation canadienne-française, comme on l'appelle à l'époque, devient plus imbriquée avec la religion catholique.
C'est-à-dire que le catholicisme acquiert de la valence nationalitaire. C'est-à-dire, en d'autres termes, être catholique, c'est être canadien-français.
Ça devient un trait distinctif.
C'est un trait distinctif. Et le deuxième élément qui va répondre, qui va rejoindre un peu ce que disait le premier ministre, c'est que là, il y a des vocations de femmes, la courbe monte comme ça, et les vocations au sacerdoce pour être prêtre séculier dans les paroisses montent aussi. Et c'est les filles, surtout, qui vont devenir religieuses, pas pour rentrer dans un monastère, non. C'est une forme de congrégation. Donc, c'est des femmes d'action. C'est les filles qui vont bâtir un réseau de formation, d'éducation.
L'éducation, les soins de santé, le travail social.
Et c'est là notre marque. C'est-à-dire, pour nous, là, les soins de santé, on n'a pas besoin de les financer personnellement. C'est le collectif qui les assume. C'est la même chose pour s'occuper des gens qui sont rejetés de la société, les infirmes, etc.
Ça, à l'époque, c'était l'Église, maintenant, c'est l'État.
Notre histoire, c'est celle-là. C'était des services que la collectivité se donnait. C'était pas les grandes fortunes qui payaient, ce qui était le cas largement du côté protestant. C'est le Québec, là, dans les années... Après des années 30 et 20 déjà, c'est le grand capital anglophone qui et l'immigration ensuite, les soldats qui nous viennent après les guerres napoléoniennes. Et nous, c'est ces choses qui sont nécessaires. La santé, l'éducation, l'aide sociale, on va se donner ça grâce à notre héritage institutionnel. Sauf que avoir des communautés religieuses, c'est correct. Encore faut-il que les filles rentrent. Or, ce qui est la grosse affaire, c'est une montée des volontés de devenir des religieuses qui vont s'occuper de l'éducation dans les campagnes comme dans les villes, etc. Et ça, c'est notre caractéristique. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a de l'argent dans nos poches et qu'on le met sur la table. Quand vous utilisez l'indicateur...
Du don de charité, oui.
Ça, c'est pas nous autres.
Non. Clairement pas.
Non, mais on aurait beau dire, oui, mais quand même, il y a un taux de... arrêtons ça.
Non, c'est
notre pas héritage, c'est que ça fait partie des ressources dont nous disposons comme collectivité.
Mais en terminant, parce que là, le temps, il file, mais il y a d'autres grandes religions pour qui la solidarité est importante. Le judaïsme...
Toutes les religions, la solidarité est importante.
Donc, dans le reste du continent, on peut aussi se dire, ben nous, parce qu'on a un héritage juif ou un héritage protestant, on a aussi cette culture de solidarité. C'est distinctif par rapport au catholicisme, mais pas par rapport à la solidarité qu'on a ailleurs.
C'est que nous avons eu une solidarité communautaire instituée et non pas individualisée. De sorte que quand on voudra... ça hurle pas tant que ça dans les chaumières quand l'État dit « on va s'occuper de l'hôpital ». Les sœurs vont gueuler. Parce que les sœurs et les femmes... Il y a un recul de l'importance politique dans les décisions des femmes au moment de la Révolution tranquille, parce que les directrices des gros hôpitaux, c'est toutes des filles. Et le gouvernement demande à ces personnes-là, venez donc faire un tour à Québec, là, parce qu'on nationalise, et c'est les gars qui vont devenir directeurs.
Qui vont prendre
hôpitaux.
La relève.
Les sœurs donnent un cours de gestion 101 des grands hôpitaux pendant quelques semaines à ceux qui vont prendre leur place. Alors, voilà
fort intéressant.
Des fragments
oui,
qui expliquent que le premier ministre se trompe, mais a raison aussi dans une certaine mesure.
On aime bien les nuances. Louis Rousseau, professeur émérite au département de sciences des religions de l'UQAM. Merci d'avoir fait un petit détour par Midi Info. Très apprécié.
GSP.
Grand angle avec Hélène Buzetti et Pierre Duchesne.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, ce gazouillis de François Legault continue à faire jaser. On essaie de mettre des nuances dans le débat. Vous venez d'entendre M. Rousseau expliquer un peu les origines de l'institutionnalisation de la solidarité par l'Église qu'évoquait François Legault. Bon, est-ce que c'est vraiment un trait distinctif? Oui, sur le plan du fait que c'était peut-être ici que c'était plus institutionnalisé, mais il y a d'autres grandes religions qui ont aussi la solidarité bien à cœur. Qu'est-ce que vous avez pensé, Hélène, en lisant le tweet de François Legault, sa petite mise à jour? Et les réactions, ma foi, extrêmement nombreuses qui ont déferlé toute la journée hier.
Il y a deux façons d'aborder cette question, sur la forme et sur le fond. Je vais commencer sur le fond pour faire un peu suite à votre précédent intervenant. Mais lorsque M. Legault cite, en fait, il n'y a rien d'original de sa part. Hein, il cite le texte qui dit « Le catholicisme a engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue. » Et moi, je ne suis pas certaine de ça. Je dirais plutôt que le catholicisme a engendré une structure de la solidarité qui nous distingue. Mmh. Une structure plutôt qu'une culture. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut revenir à l'origine de cette religion, le catholicisme, qui repose sur la fidélité à l'Église du pape. Hein? C'est une organisation pyramidale qui déploie son pouvoir, son autorité sur ceux qui sont en dessous. On a une vision comme ça de haut vers le bas. Le protestantisme, lui, il a rompu avec l'Église et il a promu cette idée que tout le monde, chaque individu peut interpréter la Bible. Et donc, chaque croyant est maître de sa foi. Et c'est ce qui distingue ces deux grandes religions-là. Il y en a une, le catholicisme, qui est une organisation hiérarchique. Passez-moi l'expression, c'est top-down.
Oui, oui.
Et le protestantisme, lui, c'est une organisation de terrain, c'est grassroots. Hein? Et parce que la religion a été au cœur de nos vies, elle a structuré profondément notre organisation sociale. Et je pense que c'est particulièrement vrai de la solidarité. Et donc, les catholiques, on dit maintenant les franco, hein, ont confié à une organisation la responsabilité de la solidarité, c'est-à-dire à l'État. On paye nos impôts, une forme de dîme moderne, et on obtient en échange des garderies, des congés parentaux, etc.
Ouais.
Chez les protestants, ils sont demeurés beaucoup plus responsables de la solidarité au niveau local. Ils organisent des bazars, des collectes diverses. On parlait tout à l'heure de la philanthropie. Les données sont flagrantes. Là, au Canada, les dons sont à peu près le double de ceux qui sont faits aux Québécois, par les Québécois. Là, c'est une différence immense. Moi, je le vois bien. Je suis en Outaouais ici. J'ai un pied en Ontario, un pied au Québec. C'est des différences culturelles importantes. Donc, notre façon de faire de la solidarité, elle est peut-être plus voyante, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit plus nécessairement généreuse.
Ça, c'était sur le fond. On reviendra sur la forme dans un instant, parce que je suis curieux d'entendre ce que Pierre en pense.
Ben, j'ai l'impression que plusieurs des conseillers de M. Legault, en train de déguster de la tire avec leurs enfants, se sont étouffés parce qu'ils s'imaginaient avoir une journée de congé. C'est rare quand on est dans l'entourage du premier ministre.
Ouais.
Et là, ben, ça a donné lieu à une petite controverse.
Mm.
Cela dit, la laïcité, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui confondent. La laïcité, c'est pas ne pas parler de religion. C'est d'établir un espace, une division claire entre l'État et ensuite la religion. Il y a les croyances, il y a l'administration publique et tout. Le fait de rappeler la prédominance de l'Église catholique dans l'histoire du Québec, c'est pas impertinent. Bon, là, après, on peut discuter de façon politique, à savoir est-ce que c'est vraiment une particularité, cette solidarité. Ce qui est une particularité, c'est la mainmise de l'Église catholique en Amérique du Nord, au Québec. Ça, c'est une particularité.
Oui, et effectivement... Du côté de la laïcité, on peut effectivement parler des religions sans en faire nécessairement la promotion ou sans avoir un problème de séparation entre l'Église et l'État. Là,
bien, il est même important d'en parler, de la religion. On l'a vu avec les cours de citoyenneté, machin, là, je ne me souviens plus, on a changé deux trois fois de nom. Là.
Éducation religieuse.
On s'est aperçu qu'il y avait un problème. On parlait de la religion comme quelque chose de neutre. La religion n'est pas neutre sociologiquement dans une société. Elle fonctionne par du prosélytisme. Elle convertit, c'est un processus collectif où elle impose des règles que l'Église ou que la religion ne veut pas remettre en question. C'est pour ça qu'on parle de dogme, de commandement ou qu'on va parler de doctrine.
Ouais.
Alors, il faut en parler, ça. Il faut que les gens soient éclairés sur qu'est-ce que c'est cette étrange créature sociologique qu'est la religion.
Oui, il n'y a pas toujours eu du bon non plus, ça, on le sait, effectivement. Sur la forme, Hélène, vous disiez, j'ai un commentaire à faire sur la forme du tweet de François Legault.
Ben, écoutez, Il a probablement raté une belle occasion de passer son tour, M. Legault, là. Pas que je trouve le gazouillis très scandaleux. D'abord, il ne dit rien de son propre cru, il faut quand même le dire. Il ne fait que relayer une chronique de Mathieu Bock-Côté, ouais. qui, en passant, est loin d'être sa meilleure. Hein. M. Bock-Côté, c'est un grand lecteur, c'est un érudit. Il écrit parfois des textes assez étoffés, savants même. C'était pas vraiment le cas ici. C'est pas une critique, là, mais c'était pas nécessairement sa meilleure. Et on sait bien que Mathieu Bock-Côté dénonce souvent ceux qui veulent faire table rase du passé, hein, qui ne voient plus aucun aspect positif, que ce soit à l'homme blanc ou à l'Occident en général. Il pose souvent un rempart contre ce qu'il perçoit comme les démolisseurs du patrimoine. Alors, cette chronique-là se voulait de cette même eau. Ne détruisons pas tout le passé. L'Église a eu aussi quelque chose de bon. Et donc, M. Legault a comme voulu dire, ouais, je suis d'accord avec ça, mais on le savait bien qu'il était de cette mouvance, cette idée de préserver le passé. Et oui, il faut faire une distinction entre parler de religion et exclure la pratique de la religion dans nos institutions. Je pense que c'est deux choses différentes. Mais il a créé probablement une controverse inutilement. En tout cas, ce que ça démontre, c'est que la religion, c'est vrai qu'au Québec, ça dérange. Et peut-être que ça, en soi, est peut-être la meilleure démonstration que la loi 21, en tout cas, le désir d'écarter la religion de l'espace public, est peut-être pas une si mauvaise chose.
Qu'est-ce que vous pensez, Pierre, de la réplique de Gabriel Nadeau-Dubois qui disait, grosso modo, ce matin, je n'ai pas participé hier aux réactions parce que j'étais justement en train de manger de la tire à une cabane à sucre, là, mais il dit aujourd'hui, ce que je trouve déplorable, c'est on parle toujours de laïcité et d'interdiction lorsqu'il est question des autres religions, notamment du côté de l'islam, mais que quand il est question du catholicisme, c'est toujours du patrimoine. Et donc là, à ce moment-là, c'est justifié d'en parler. Vous en pensez quoi?
Oui. Bien, tout d'abord, le texte était assez habile, bien construit, il faut le souligner. Maintenant, écoutez, est-ce qu'on parle de laïcité pour diviser? Parce que c'est un peu l'accusation de Gabriel Nadeau-Dubois. Ça m'agace un peu, ce point de vue-là, mais remarquez qu'on est dans l'arène politique, là. C'est des partis d'opposition et tout. On parle de laïcité pour discuter. On parle de laïcité parce que c'est important, parce que c'est significatif. Alors, ça n'efface pas le fait de revenir sur un passé. Pourquoi effacer son passé? Pourquoi? Vous savez, si... Et puis, il y a toute une génération, là, je dirais les moins de 45 ans, là, qui n'ont aucune référence sur qu'est-ce que c'était cette présence de l'Église catholique dans le passé. Donc, il est bon qu'à travers la transmission de génération, on puisse rappeler, on n'a pas besoin d'aller en Iran, là, pas besoin d'aller en Afghanistan, où il y a une mainmise des théocraties qui écrasent l'existence même, le rôle des femmes dans leur vie. Il y a eu une époque au Québec où le prêtre était dans l'usine pour bénir la nouvelle usine, était dans les champs, on devait faire des prières à certains moments de la journée, et était dans la chambre à coucher entre l'homme et la femme pour dire à la femme « Ne refusez pas votre homme parce que c'est ainsi qu'on va continuer à exister. »
La revanche des berceaux.
Alors, écoutez, il faut quand même ne pas oublier ça. Lorsque vous permettez à la religion de s'installer par prosélytisme, elle existe. Et je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai pris l'autobus Québec-Montréal ce matin, et à quelques minutes avant la fin, un homme à l'arrière s'est mis à faire un sermon, à annoncer la fin des temps, qu'il fallait se repentir et tout. On était plusieurs à se tourner la tête, à regarder. Certains grognaient. Évidemment, vous savez, les Québécois sont très tolérants.
Oui.
Personne n'a agi. Alors, le prosélytisme religieux, il arrive de toutes sortes de façon même inattendue. J'en ai eu un exemple ce matin.
J'espère que le trajet n'était pas trop long avant d'arriver.
C'était dans les dernières minutes. Okay. Il a mesuré son effet. C'était dans les dernières minutes du trajet.
Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde essaie de marquer un peu des points politiques, Hélène? C'est-à-dire que le premier ministre, lui, aime bien ramener ce côté. On a une fierté québécoise, notre patrimoine est important, et donc dans ce patrimoine-là, il y a la religion catholique et les autres partis qui disent bien, il y a toujours une espèce de deux poids, deux mesures. Vous parlez de laïcité, mais en même temps, vous aimez parler de catholicisme. Vous, comment vous voyez cette joute politique?
Ouais, ben, oui, il y a beaucoup de joutes politiques, mais ça m'agace, moi, cette juxtaposition, parce que M. Legault n'a quand même pas invité à tenir une messe catholique, chrétienne, à l'Assemblée nationale. Il n'a pas dit « je vais aller, moi, en tant que premier ministre, célébrer une messe ». Il a seulement parlé d'un héritage. C'est pas, c'est pas la même chose. Et je trouve que cette comparaison que l'on fait entre, d'une part, ce petit gazouillis et, d'autre part, par exemple, l'interdiction des locaux de prière dans nos écoles, n'a pas cette raison d'être, ça ne se compare pas. Mais c'est sûr qu'il y a du positionnement politique. Pourquoi avoir fait ce gazouillis, M. Legault? Surtout, comme je vous dis, moi, il m'étonne parce qu'il ne dit rien. Il fait juste s'accrocher à la chronique pas super bonne de quelqu'un d'autre. Me semble que c'était pas la meilleure façon de faire une sortie. Il aurait pu tout simplement faire un tweet général sur Pâques et dire c'est une occasion de se souvenir, de passer ou quelque chose comme ça.
Il s'accroche à quelque chose d'autre qui, lui, peut être assez controversé aussi.
Voilà, c'était inutile. Et donc, tout le monde, évidemment, joue sa partition dans cette bataille politique. On n'en sortira pas grandi. Moi, je pense que je vais aller continuer à digérer mon chocolat, puis on va passer à autre chose.
Et c'est quand même M. Legault qui a retiré le crucifix à l'Assemblée nationale.
C'est vrai, c'est vrai. Tout est dans tout. On y revient tout le temps. Hélène Buzetti, Pierre Duchesne, on se retrouve demain.
Au revoir.
Au revoir.
Dans quelques instants, on va parler de la hausse importante des salaires de certains PDG, comme ceux d'Air Canada et de l'Obla. Et un peu plus tard, vers la fin de l'émission, on va discuter avec notre collègue Yannick Dumont-Baron de cette quête de certaines entreprises québécoises, canadiennes, pour recruter de la main-d'œuvre compétente jusqu'en Colombie. Alors, Yannick a accompagné ce processus de recrutement jusqu'en Colombie. Il va nous raconter ça vers 12h50. Mais d'abord, on va parler du pont Pierre-Laporte à Québec, puisque de nombreux travailleurs ont été exposés à de la poussière de plomb sans le savoir et sans porter l'équipement de protection nécessaire, justement lorsqu'il y a eu dans les derniers mois, des travaux sur le pont Pierre-Laporte. C'est notre journaliste de l'émission Enquête, Marie-Pierre Bouchard, qui s'est penchée là-dessus. Marie-Pierre, bonjour.
Bonjour, Alec.
Alors, des ingénieurs du ministère répètent pourtant depuis des années qu'il n'y a pas de plomb sur le pont. Visiblement, c'est peut-être pas le cas, là.
Voilà, et c'est un sous-traitant qui a fait la découverte au cours des derniers mois. En fait, on a consulté des documents qui démontrent que dès 2020, le ministère des Transports a été questionné par l'entrepreneur Pomerleau sur la présence de plomb alors qu'il s'apprêtait à faire des travaux sous le tablier du pont, la structure métallique qui est sous le pont. L'ingénieur du ministère qui était dans le dossier à ce moment-là avait assuré qu'il n'y avait pas de plomb sur le pont Pierre-Laporte. L'an dernier encore, cette fois, c'était pour les travaux de consolidation des suspentes. Il y a une ingénieure de la même équipe au ministère des Transports qui indiqua à l'entrepreneur que le revêtement des suspentes ne contenait pas de plomb. Mais l'entrepreneur Pomerleau a eu des doutes. En janvier dernier, a fait faire des tests. Résultat, Alec, les suspentes sont recouvertes d'une peinture qui contient environ 400 fois plus de plomb que ce que prévoit la réglementation. Donc, c'est une forte concentration. Comment on explique ça? Évidemment, vous comprendrez que ça soulève quand même beaucoup de questions. On a parlé avec le ministère des Transports qui laisse entendre qu'il le savait qu'il y avait du plomb sur les suspentes, mais ne l'a pas dit. Je vous invite à écouter un extrait de l'échange que j'ai eu avec la porte-parole du ministère des Transports, Émilie Laure.
Mm-hmm. Il y a eu un revêtement en 2005 sur les suspentes qui était composé de zinc, venant là, complètement boucher, là, si on veut, les autres composantes. Donc, c'est vraiment là, fait à partir de zinc. C'est une peinture au zinc depuis 2005 qui est sur les suspentes du pont Pierre-Laporte.
Mais on savait qu'en dessous, il y avait du plomb, mais on assurait qu'il n'y en avait pas à cause de ce nouveau revêtement-là.
Le revêtement faisait en sorte que le plomb n'était pas exposé.
Bon, Alex, ce qui est étonnant là-dedans, c'est que dans ses propres directives pour ces travaux-là, le ministère des Transports précise dans le devis qu'il faut enlever toute la peinture, même les couches les plus anciennes, sur une partie des câbles de suspente avant d'installer le système de consolidation là, pour soulager les suspentes, ce qui exposait inévitablement les travailleurs à de la poussière de plomb. Là.
Et combien de travailleurs ont été exposés justement à cette poussière de plomb?
Bon, le ministère des Transports parle, en fait, nous dit entre 50 et 60 travailleurs seulement pour les travaux actuels sur les suspentes. La présence de plomb, je pense que c'est important quand même de le préciser. C'est pas nécessairement grave, mais c'est important de le savoir quand il y a des travaux parce que éventuellement on peut faire de la poussière de plomb et dans un tel cas, ben il faut que les travailleurs portent l'équipement de protection nécessaire. Donc, le ministère des Transports nous a dit que la CNESST est dans le dossier, la santé publique aussi, il y a des prélèvements sanguins qui ont été faits. On est en attente là, des résultats pour tout ça.
Est-ce qu'on a été obligé de suspendre ou d'interrompre les travaux pendant plusieurs semaines, justement, en raison de cette poussière de plomb?
Oui, effectivement. En fait, là, du 21 février au 6 avril, on a arrêté les travaux sur le pont complètement, le temps de mettre en place un plan d'action parce qu'on voulait assurer un environnement sécuritaire aux travailleurs, évidemment. Le ministère des Transports a annoncé la reprise des travaux vendredi dernier, envoyé un communiqué aux médias. Ça, c'était juste après avoir été interpellé par enquête pour justement au sujet du plomb. Donc, on a annoncé la reprise des travaux sur les suspentes. Dans le communiqué, on parle d'un enjeu de santé, sécurité au travail. Ce qui nous a étonnés, par contre, c'est que, en fait, le communiqué a été envoyé pour annoncer la reprise de travaux dont l'interruption n'avait jamais été annoncée. Et souvenez-vous, il y a quelques semaines, on disait plutôt, alors que les travaux, en réalité, étaient arrêtés, on disait que ça allait très bien pour les travaux sur les suspentes, sur le pont Pierre-Laporte. Donc, encore là, on se pose différentes questions.
Marie-Pierre Bouchard à Québec, merci beaucoup.
Au revoir. Bonne journée.
Pour partager nos entrevues, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio ou sur la page web de Midi Info.
La rémunération du PDG d'Air Canada continue de faire réagir depuis que l'entreprise a confirmé la semaine dernière que Michael Rousseau a gagné 12,4 millions de dollars en 2022. C'est au moins 3 fois plus que l'année précédente. Je rappelle qu'il a gagné quand même ces millions au moment où on a vécu un incroyable fiasco dans les aéroports canadiens. Et chez Air Canada, on avait aussi été touché l'été dernier par des vols en retard, annulés, bagages perdus, ainsi de suite. Ça s'ajoute à d'autres PDG dont la rémunération fait sourciller. On apprenait la semaine dernière que le PDG de Loblaw, Alan G. Weston, a empoché, lui, 8,4 millions de dollars en 2022. C'est 3 millions de plus que l'année précédente et 140 % d'augmentation si on prend l'année 2020 où il avait gagné 3,5 millions. Alors, comment on justifie cette hausse de rémunération? Dans le cas des épiciers, je vous rappelle que l'inflation fait mal, qu'il y a bien des gens qui trouvent ça douloureux d'aller à l'épicerie, regardent le salaire du PDG en haut et se demandent s'il n'y avait peut-être pas matière à faire un peu plus attention cette année par rapport à d'autres années. Bref, je pose la question à Willy Gagnon, directeur général du Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Monsieur Gagnon, bonjour.
Bonjour, comment vous portez-vous?
Très bien, merci beaucoup d'être avec nous. Commençons peut-être par Michael Rousseau, le PDG d'Air Canada. Est-ce que vous avez été surpris de voir que sa rémunération avait à ce point bondi?
Ça fait 25 ans qu'on regarde ça, on est loin de la surprise. Nous, ce qu'on réclame depuis tout ce temps-là, c'est que le ratio de rémunération respecte une certaine règle. Hein. On dit que la rémunération du dirigeant, la personne la mieux payée d'une société, devrait jamais dépasser un certain ratio. On dit entre 20 et 30 fois la rémunération moyenne ou médiane des employés. Mmh. Là, on est à des niveaux stratosphériques qu'on a déjà vus par ailleurs. Hein. C'est pas la première fois qu'on voit le dirigeant d'une grande entreprise gagner des salaires aussi stratosphériques.
Parce que là, les conseils d'administration se basent souvent sur les comparatifs du marché. Hein. On dit pour garder des talents, il faut regarder les entreprises comparables, voire la rémunération. Et on a reçu un courriel intéressant à l'émission de Luc Simon à Québec, l'un de nos auditeurs, parce qu'en début d'émission, je faisais la promotion de ce sujet-là. Il nous a envoyé un courriel en disant « Si on compare toujours la rémunération des hauts dirigeants avec d'autres hauts dirigeants, c'est comme une spirale sans fin, parce qu'à un moment donné, ils se mettent évidemment entre eux à toujours gagner plus, et donc il faut gagner plus parce que l'autre gagne plus. Et si on calculait de manière différente la rémunération des PDG de la haute direction, il n'y aurait pas ces bons faramineux d'une année à l'autre. » Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'on ne compare pas, dans le fond, avec les mauvais indicateurs, la rémunération des hauts dirigeants des entreprises?
Bien, c'est une spirale sans fin si on choisit d'y participer pour rester dans les métaphores catholiques ou pascales. Hein? Dans Bible, ils disent les gens du siècle sont habiles. Ouais. Quand on veut augmenter la rémunération de quelqu'un, on trouve des moyens de le faire. C'est d'ailleurs cette question-là de la comparaison de la rémunération des dirigeants entre eux. C'est d'ailleurs un des arguments qu'utilisent ceux qui souhaiteraient à ce qu'on en revienne au passé. Dans le temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la rémunération des hauts dirigeants d'entreprise n'était pas divulguée. Mmh. Dans les années 90, ce n'était pas le cas. C'est un des gains qu'on a réussi à obtenir. Maintenant, cette rémunération-là est publique. Puis il y en a qui disent que parce qu'elle est publique, ça fait en sorte qu'on augmente les salaires à n'en plus finir à force de se comparer entre nous, c'est évidemment un sophisme. Nous, ce qu'on dit, c'est que si on veut arrêter d'augmenter les rémunérations, il faut arrêter d'augmenter les rémunérations. Hein?
Oui.
La comparaison entre les différents dirigeants des différents secteurs n'est pas le seul critère, ne devrait pas être le seul critère. Je vous rappelle, dans les circulaires de procuration de la direction qui servent aux assemblées annuelles des sociétés cotées en bourse, c'est là-dedans qu'est précisé quelle est la méthode pour calculer la rémunération des dirigeants d'entreprise. Puis c'est dans ces assemblées-là que doivent être approuvées ces rémunérations-là par les actionnaires. Et puis la moitié du cahier est consacré à la rémunération sur une centaine ou 125 pages, il y en a 50 ou 75 qui servent à décrire quelle est la rémunération des hauts dirigeants. Donc, ils mettent beaucoup d'efforts à justifier ça. Et puis, c'est généralement... ils argumentent généralement l'idée de ce qu'il faut qu'ils soient compétitifs et puis qu'ils doivent viser le rendement de l'entreprise. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que ça ne devrait pas être le seul critère. Il n'y a pas un seul intervenant dans le monde financier. Hein. Les sociétés se sont toutes dotées depuis une dizaine d'années de raison d'être. Ils se sont dotés de raison d'être écrites dans lesquelles ils ont spécifié que leur seule raison d'être n'est pas seulement les actionnaires, mais l'ensemble des parties intéressées, au compte duquel il y a les clients, il y a les fournisseurs, il y a les créanciers, puis il y a la société en général. Ce sont tous des gens qui sont intéressés par la bonne marche de ces entreprises-là. Et puis, assurément, ces salaires-là heurtent le sens commun.
Mais dans le cas des conseils d'administration, là, moi, je pensais que leur rôle, c'était de défendre les actionnaires, d'avoir justement un œil sur ces parties prenantes dont vous parlez, qui dépassent uniquement les PDG, la haute direction. Est-ce que ces conseils d'administration-là jouent le rôle approprié qu'ils devraient jouer?
Les administrateurs dans le conseil d'administration de n'importe quelle société ont un devoir fiduciaire en vertu de la loi de veiller aux meilleurs intérêts de l'entreprise. Les meilleurs intérêts de l'entreprise, ce n'est pas seulement les intérêts des actionnaires.
Me semble-t-il.
C'est aussi l'intérêt de ses clients parce qu'une entreprise sans clients ne fera rien.
Oui.
Et puis, c'est aussi le respect de la société dans laquelle elle évolue parce que si elle l'écrase, elle ne fera pas de bonnes affaires. C'est le respect de l'environnement, c'est le respect de ses créanciers, c'est le respect de ses fournisseurs. Elle a plusieurs intérêts à surveiller une société si elle veut faire de bonnes affaires. Et puis, c'est le devoir fiduciaire des administrateurs que de s'organiser pour arbitrer ces différents intérêts-là. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que la question du rendement ne devrait pas être le seul critère. Soit dit en passant, hein, chez Loblaw, parce qu'il s'agit d'une des deux rémunérations qu'on regarde, chez Loblaw, M. Weston est la fiducie familiale qui... détient des actions de l'entreprise, la contrôle l'entreprise.
Mm-hmm.
Donc, on est dans une situation où il décide...
De son propre salaire, entre guillemets.
Pas lui-même tout seul, il y a sa famille aussi. Mais vous comprenez le genre de situation dans lequel on se retrouve, tandis que dans le cas d'Air Canada, c'est un peu plus nébuleux. Hein. Sa rémunération a augmenté de 232%. C'est absolument scandaleux.
Dans les deux cas, ça a été des années quand même particulières parce que les consommateurs, dans le cas de l'épicerie, se disent « Mon Dieu, ça coûte tellement cher. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se garder une petite gêne en 2022-2023 du côté des épiciers pour la rémunération de leurs dirigeants? » Quand on voit à quel point... Et je sais que c'est pas uniquement de leur faute. Leurs marges n'ont pas beaucoup bougé, mais ça reste que les gens ont la perception qu'il se fait beaucoup d'argent dans les épiceries au détriment des consommateurs. Puis dans l'autre cas, ben fiasco dans les aéroports, retard dans les vols, vols annulés, bagages, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une exemplarité puis se dire peut-être, ben cette année, ça a été plus difficile, on va envoyer un message de solidarité avec nos clients?
Ça ne devrait pas être une question morale. Ça devrait être inscrit dans les politiques de rémunération des sociétés. On a vu M. Weston en commission, je ne me rappelle plus exactement du nom de la commission, mais en commission spéciale à Ottawa, déchirer sa chemise en disant l'augmentation des revenus de la société n'allait pas dans ses poches. Mais là, ça donne l'impression que c'est ça qui arrive.
Ouais,
donc, ça devrait se passer autrement. Ça devrait être inscrit dans les politiques de rémunération des sociétés de manière formelle. Et ça ne devrait pas être une question morale qui traîne la réputation des entreprises dans la boue à chaque année.
Willy Gagnon, directeur général du Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, le MÉDAC. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer. Au revoir.
Vous écoutez Midi Info avec Alec Castonguay.
Il n'y a pas que les provinces canadiennes qui souffrent de problèmes liés au manque de main-d'œuvre. La plupart des pays occidentaux aussi ont besoin de main-d'œuvre compétente, ce qui force un peu tout le monde à se déplacer de plus en plus loin sur la planète pour recruter des travailleurs qualifiés. Notre journaliste Yannick Dumont-Baron s'est rendu en Colombie pour voir comment les entreprises québécoises tentent de séduire les travailleurs compétents. Bonjour Yannick.
Bonjour Alec.
Alors on disait avant, on va en France, on va en Belgique, on tente de recruter des travailleurs. C'est plus le cas, là. On va de plus en plus loin pour en trouver.
Oui, effectivement. On disait aussi parfois, on va au Maghreb, Maroc, Tunisie, où ça parle français. Mais là, un des responsables des opérations de recrutement pour le MIFI me disait, la concurrence, elle est mondiale. L'Allemagne, la France aussi ont besoin de bras, besoin d'infirmières. Donc, eux aussi vont en chercher. On ne peut pas nécessairement aller en chercher chez eux. Ça ne veut pas dire que les Québécois, on ne va pas regarder du côté de la France, de la Belgique. Mm-hmm. Il y a quand même des affinités, mais on se tourne beaucoup vers le Maghreb, aussi vers l'Europe francotrope, donc l'Italie, Portugal, Espagne notamment. Et sur l'Amérique latine, il y avait une mission en Colombie il y a une semaine environ. Il y en a une autre au Brésil à la fin du mois. Le calcul, c'est la langue maternelle voisine du français. Les gens-là pourront l'apprendre, le français plus tard. Donc, il y a beaucoup d'intéressés. En Colombie, 1100 postes étaient offerts, 54 000 candidatures. Je vous épargne les maths.
Quand même.
C'est 49 candidats pour chaque poste. Ça se tenait dans un hôtel. On aurait dit un endroit où séjournait une vedette avec énormément de gens qui voulaient les voir. Plein de jeunes, bien habillés, nerveux aussi, vous pouvez l'imaginer, là, des gens qui attendent leur tour en entrevue. Ils avaient une vingtaine de minutes, parce que parfois, on était là, les recruteurs avaient 26, 30 personnes à voir en deux jours. Donc, ça fait beaucoup de gens et peu de temps, ce qui fait qu'on limitait les entrevues à une vingtaine de minutes.
L'avantage d'aller vers des pays occidentaux, c'est souvent ce qu'on dit étant la scolarité est semblable, la reconnaissance des compétences est plus facile, mais est-ce que ça s'applique aussi en Amérique latine ou au Maghreb, par exemple?
Ça s'applique, mais au cas par cas. Donc, le MIFI a mené déjà ce genre de mission en Amérique latine. Donc, on a un peu rodé la machine, si vous voulez. On a filtré les candidats d'abord en fonction des besoins au Québec. Ensuite, on a tissé des partenariats avec des organismes en Colombie. On n'ouvre pas la porte à tous les métiers. En Colombie, on cherchait beaucoup d'arpenteurs, notamment des gens dans l'aéronautique. Pourquoi? Parce qu'on sait que là, les formations sont semblables à celles du Québec. Dans ces domaines-là, les compétences se chevauchent aussi. Dans l'assemblage des portes et fenêtres, par exemple, une Québécoise me disait « Les Colombiens sont généralement plus polyvalents que les candidats issus du Québec qui se retrouvent dans son entreprise. » Deux recruteurs québécois m'ont dit même, écoute, imaginez, c'est plus facile de convaincre un Colombien de changer de pays, de s'installer sur la Côte-Nord ou à Drummondville, que quelqu'un qui est déjà au Québec, de changer de région, de s'éloigner ses amis. Donc, dans un sens, c'est logique de faire des milliers de kilomètres pour aller chercher quelqu'un. On a lancé des appels à candidature il y a plusieurs semaines. On a présélectionné des candidats, convoqué certains en entrevue. Il y a une entreprise qui voulait combler une quarantaine de postes en Colombie. Une autre est venue, a fait le voyage pour un seul candidat. Dans les deux cas, ce qu'on indique après les deux jours, c'est on semble avoir trouvé ce qu'on cherchait. Le MIFI dit on va faire ça ailleurs parce que ça prend du temps à développer ce genre de réseau-là. Donc, on se tourne peut-être vers le Pérou aussi, vers l'Afrique. On regarde même du côté des universités parce qu'on pourrait attirer des étudiants avec une partie des compétences en se disant ils termineront leurs études ici au Québec. Puis après ça, ben, on espère qu'ils resteront.
Et quel est le niveau de français des candidats que vous avez rencontrés?
Ben, c'est pas évident. Hein. Ceux à qui j'ai parlé, souvent, c'était laborieux. On parle un peu français, on se limite peut-être à des réponses simples du genre on explique pourquoi on trouve que le Canada est accueillant pour eux. Bon indicateur quand même du sérieux de leur démarche parce que certains le parlent assez bien, ils ont pris des cours par eux-mêmes. Le MIFI va offrir des cours de français aux gens qui sont sélectionnés, donc ils pourront le suivre à distance chez eux avant d'arriver ici. Évidemment, c'est un must en soins infirmiers de parler français, mais ça l'est moins pour assembler des fenêtres, par exemple. Certains entrepreneurs disaient on compte surtout sur le fait qu'ils vont apprendre en arrivant ici. Donc, leur motivation, des entreprises offrent des cours. Le risque, ce que des entreprises ont dit, c'est en fait, c'est de choisir le mauvais candidat, pas nécessairement en fonction de ses compétences linguistiques, mais de ses désirs. C'est-à-dire qu'on offrirait un quart de nuit à quelqu'un qui est surqualifié, où on l'installe en région, quelqu'un qui veut surtout être dans une grande ville. Donc, c'est peut-être de courir le risque que cette personne-là ne soit pas heureuse dans le poste pour lequel elle a traversé une partie de la planète. Ce sont des permis de travail temporaires, ce qui veut dire que pour ces gens-là, ce n'est pas facile de changer d'employeur par la suite.
Il nous reste environ une minute. Comment ça se passe pour ceux qui sont sélectionnés par une entreprise québécoise?
Ben d'abord, ils ne prendront pas l'avion demain. Hein. Le processus organisé par le MIFI, ça ne fait pas accélérer les démarches de demande de permis auprès d'Ottawa, mais ça les rend plus crédibles, plus organisés. Donc, on en a peut-être pour 6-8 mois. Une fois arrivés, il faudra s'organiser dans la société canadienne. Là, les entreprises les aident souvent. Parfois même, on va jusqu'à mettre des logements temporaires à leur disposition. Drummondville, on dit, on va accueillir les travailleurs directement à l'aéroport. On va leur montrer où est l'épicerie, les aider avec le permis de conduire, par exemple. Donc, on veut vraiment se démarquer pour convaincre les gens d'aller dans le centre du Québec. Ça, c'est une fois que le permis de travail est reçu. Mais en attendant, vous imaginez, ce sont quand même des gens qui se déracinent, qui quittent leur famille, leur pays. Donc, une jeune femme me disait, je vais passer du temps avec ma mère. Ça la rend triste de savoir que si j'ai un boulot comme ça, je vais quitter le pays natal pour aller assez loin quand même.
Yannick Dumont-Baron, merci d'avoir été avec nous.
Un plaisir, bonne journée.
Bonne journée. Jean-Philippe Vautier, bonjour.
Oui, bonjour, 1, 2, 1, 2.
Oui, je suis là, okay, bonjour.
Parfait, allô, parfait. Allô. Non, parce que je testais mon micro, je viens d'arriver en studio, vous allez bien?
Oui, et vous?
Ben oui, ça va très, très bien.
Alors, de quoi on parle chez vous? Là?
Vous avez, vous connaissez évidemment Noémie Mercier,
oui,
collègue,
bien, oui.
Qui a travaillé avec vous à l'actualité.
Exactement,
hein?
Mais oui, on a travaillé ensemble pendant plusieurs années.
Feu l'actualité.
Non, toujours, toujours bien en
pas
vie.
Pas semblant. on va parler de l'affaire Chantal Daigle, le documentaire qu'elle a réalisé. C'est diffusé demain, je pense, sur Crave. Okay. Et moi, j'ai eu la chance de le regarder.
OK, bien, on va écouter ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Nous, on se retrouve demain, 11h30, Maritime, midi 30. Bonne fin de journée.